L'Association nationale pour l'amélioration de la vue a alerté en 2017 sur la dégradation de la vue des adolescents et des jeunes adultes qui sont plus exposés que leurs aînés, pas toujours, hein, aux écrans. Et j'ai lu dans un article qui date de d'août 2017 et que j'ai trouvé sur le site internet de la radio France Inter, quelques commentaires intéressants. Myopie, vision de loin altérée, maux de tête, les 16-24 ans ont du souci à se faire pour leurs yeux. Selon le baromètre annuel, donc pour cette association, les adolescents et les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à avoir des problèmes de vue. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une enquête médicale, avec des statistiques médicales, mais voilà, c'est une étude qui comparait les adolescents au grand public et qui trouvait en particulier que la vision de loin et la fatigue visuelle étaient particulièrement affectées. Autrement dit, il se pourrait que plus on a le nez collé sur un écran, moins on voit bien à distance. Nous terminons ce matin la première grande partie de l'Évangile selon Marc, et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le chapitre 8. Nous allons lire une grande partie de ce chapitre, Marc 8, à partir du verset 1, et nous allons lire jusqu'au verset 30. Alors, le texte est un peu long, mais ne vous inquiétez pas, ça se lit très bien, très facilement, c'est découpé en plusieurs petites parties. Lisons ensemble donc Marc chapitre 8, versets 1 à 30, et en lisant le texte, vous comprendrez rapidement pourquoi je vous parle des problèmes de vue. Marc chapitre 8, à partir du verset 1. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et qu'ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« 7, dirent-ils. » Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, après la bénédiction, dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans le territoire de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, commencèrent à discuter avec Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément dans son esprit et dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe, un miracle ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et s'embarqua de nouveau pour passer sur l'autre rive. Les disciples avaient oublié de prendre du pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation : « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Le levain, c'est ce qui fait gonfler la pâte. Les disciples raisonnèrent entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en rendit compte et leur dit « Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas pris de pain ? Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore ? Avez-vous le cœur endurci ?» C'est notre thème de ce matin. « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, dirent-ils. Et Jésus leur dit : Ne comprenez-vous pas encore ? Ils se rendirent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le supplia de lui imposer les mains. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit « Je vois les hommes, mais comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout clairement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe, et en chemin, il leur posa cette question « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'autres disent Élie, d'autres l'un des prophètes. » « Mais vous ?» leur demanda Jésus. « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit « Tu es le Christ !» Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Voilà notre passage de ce matin, qui commence par cette formule « En ces jours-là », verset 1. C'est là un indice de la part de l'auteur, Marc, qu'il a mis ensemble dans ce passage des événements qui ne sont pas forcément dans un ordre chronologique, ils ne se sont pas forcément déroulés les uns après les autres, mais que Marc a rassemblé pour nous dire quelque chose. Et en effet, nous trouvons dans ce passage trois groupes de personnes sur lesquelles on va s'arrêter, les disciples, les pharisiens et l'aveugle. Et le point commun qu'il y a à ces trois groupes de personnes, de personnages, c'est qu'ils ont des problèmes de vue. Alors, à l'époque, ce n'est pas à cause des écrans. Mais regardez, les pharisiens prétendent qu'ils voient clair, mais Jésus les considère comme des aveugles, même s'ils n'utilisent pas le terme. Les disciples, eux, voient flou, car ils ont du mal à comprendre qui est Jésus. Et enfin, l'aveugle, eh bien, un aveugle, mais Jésus le guérit. Alors, dans un premier temps, il voit flou, lui aussi, mais dans un deuxième temps, il voit tout clairement. Et donc, ces problèmes de vue, entre guillemets, vont nous servir de guide pour cette prédication ce matin, que j'ai découpée en trois temps. Premier temps, nous allons regarder ceux qui voient clair. Deuxième temps, ceux qui voient flou. Troisième temps, ceux qui ne voient rien. Premièrement, ceux qui voient clair. Et on va commencer, d'habitude je prends le texte dans l'ordre, mais là on va commencer par la fin du voyage de Jésus et de ses disciples dans notre texte ce matin. Lorsque Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïda, au verset 22. Là, vous retrouvez le verset. Les gens du coin amènent à Jésus un aveugle. Et on retrouve une situation assez similaire avec celle que nous avons vue la semaine dernière, ce sourd et muet du chapitre 7. De nouveau ici, la foule dicte à Jésus sa conduite, hein, on le supplie de lui imposer les mains. Et de nouveau, Jésus prend la personne seule à l'écart de la foule. De nouveau, Jésus vient au contact physique de la personne qu'il va guérir. Et de nouveau, Jésus utilise sa salive pour guérir l'aveugle, décidément. Et le verbe « voir » revient de nombreuses fois dans ces quelques versets. J'attire votre attention sur le fait que c'est le seul miracle que Jésus accomplit en deux temps. Pour tous les autres miracles de guérison que l'on trouve dans les évangiles, la personne est toujours guérie instantanément. Cela doit donc attirer notre attention. Que se passe-t-il ici? Pourquoi cette guérison en deux temps? Est-ce que Jésus est fatigué? Est-ce que Jésus expérimente une nouvelle technique de guérisseur? Est-ce que l'aveugle résiste à retrouver la vue? Regardez, vous qui n'êtes pas aveugle physiquement, regardez attentivement où se trouve cet épisode de la guérison de l'aveugle. Il se trouve entre deux discussions des disciples avec Jésus. Au verset 18, donc on remonte un petit peu dans le texte, Jésus dit à ses disciples « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. » Il cite là le prophète Jérémie, chapitre 5, verset 21. Et puis, il rappelle à ses disciples les deux multiplications des pains que nous avons lues au chapitre 6 et au chapitre 7 dans de précédentes prédications. Et Jésus termine cette première discussion avec ses disciples par cette question: vous ne comprenez pas encore? Autrement dit, vous êtes aveugle encore? Et dans le même passage, donc, ici, Jésus guérit un aveugle qui a une cécité physique. Et Jésus essaye aussi de faire comprendre à ses disciples qui il est, parce que ses disciples voient flou en ce qui le concerne. Il y a aussi cette deuxième discussion de Jésus avec ses disciples à partir du verset 27, où les disciples débattent de l'identité de Jésus. Et l'apôtre Pierre qui fait cette déclaration: « Toi, tu es le Christ ». Là, ils voient clair, n'est-ce pas? Ils sont passés d'une vision floue à une vision nette. Oui, Jésus est bien le Christ, le Fils de Dieu. C'est ce que Marc nous avait déjà dit au premier verset de son évangile. Et il a fallu attendre 8 chapitres pour que les disciples arrivent à cette compréhension, à cette vue précise concernant l'identité de Jésus. Jésus est bien le Messie qui doit venir. Alors, après, il leur faudra encore 8 chapitres pour comprendre que ce Messie va souffrir et mourir pour eux. Ce qui ne collait pas trop avec leur idée du Messie. C'est ce que nous verrons plus tard dans la deuxième partie de cet évangile. Mais pour l'instant, nous voyons que Marc a placé dans son récit, ici, la guérison de cet aveugle, à mon avis, pour illustrer, en quelque sorte, le cheminement spirituel des disciples. Cet homme de Bethsaïda était aveugle, et maintenant il voit, guéri par le Christ. Mais avant de voir clairement, il voyait flou. De même, les disciples, qui étaient aveugles concernant l'identité véritable de Jésus, depuis que Jésus les a appelés, ils commencent à entrevoir la vérité. Mais ils sont eux aussi dans le flou. « Ne comprenez-vous pas encore ?» leur répète Jésus. Nous sommes donc ici à un moment clé de l'évangile selon Marc, celui où les disciples de Jésus comprennent et confessent, c'est Pierre qui prend la parole, la véritable identité de Jésus. Jésus est le Messie. Et Jésus les fait taire, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans cet évangile, pour que même ses disciples ne lui fassent pas de la pub avant l'heure. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai intitulé ce premier point « Ceux qui voient clair ». Ceux qui voient clair, ce sont ceux qui sont appelés par le Christ, comme cet aveugle, hors de leur village, c'est-à-dire hors des sentiers battus et de l'agitation de la foule bien-pensante, pour être guéri. La guérison physique de cet homme aveugle est un signe, on retrouvera ce mot dans la bouche des pharisiens tout à l'heure, un signe qui annonce une autre guérison, et dont nous avons déjà parlé ce matin, celle de la maladie du péché. On voit Jésus, encore une fois, qui crache dans ce passage. Alors la dernière fois, c'était sur la langue du sourd et muet. Là, c'est littéralement dans les yeux de l'aveugle. C'est spécial, hein ? Eh bien, celui qui crache dans les yeux de cet homme aveugle, c'est sur lui que les pharisiens et les foules vont cracher quelque temps plus tard, lorsque Jésus portera sa croix pour mourir pour les hommes pécheurs. Il y a donc deux camps, si vous voulez. On l'a rappelé aussi ce matin, Sabrina en a parlé d'une autre manière. Il y a ceux qui crachent sur le Christ, et il y a ceux qui laissent le Christ leur cracher dessus, entre guillemets. Vous comprenez l'usage que je fais du mot cracher ici. Jésus ne nous crache pas dessus littéralement, mais il vient guérir notre aveuglement spirituel. Dont l'aveuglement de cet aveugle ici est une représentation. Ne pas se laisser guérir intérieurement, moralement par le Christ, c'est du coup faire le choix de se ranger parmi ceux qui lui crachent dessus. c'est-à-dire ceux qui refusent sa grâce et son pardon, et qui du coup s'exposent au jugement de Dieu. Alors, je vous pose la question, mais sous une autre forme que celle qui a été posée tout à l'heure. Voyez-vous clair ce matin? Non seulement avec vos organes et vos sens, mais moralement, spirituellement, par la foi. Avez-vous une idée claire de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour vous à la croix? Si ce n'est pas le cas, laissez-le guérir les yeux de votre intelligence. Nous avons chanté tout à l'heure « Ouvre les yeux de mon cœur ». Afin que vous compreniez qui il est vraiment, car il en va de votre vie. Si vous ne voyez pas clair ce matin, c'est peut-être que vous vous trouvez dans l'un des deux autres groupes dont nous allons parler maintenant. Après ceux qui voient clair, ceux qui voient flou. Et dans notre texte, ceux qui voient flou, ce sont les disciples de Jésus. Revenons avec eux sur les difficultés qu'ils ont à comprendre qui est Jésus. Ils ne sont pas aveugles comme les pharisiens. Ils ne prétendent pas, ces disciples, tout voir et tout savoir, mais ils n'ont pas encore clairement compris qui est Jésus. Comme cet aveugle qui commence à voir les hommes, mais comme des arbres qui marchent, la vision des disciples est encore floue. Mais Dieu est en train d'ajuster la netteté de leurs lunettes spirituelles. Vous voyez, moi aussi, quand j'ai mes lunettes, je vois clair. Quand je les enlève, je vois flou. Quand je ferme les paupières, je ne vois rien. Pourquoi les disciples voient-ils flou? Ils voient flou parce qu'ils ont du mal à regarder au-delà de leur capacité humaine personnelle. Revenons sur cette histoire de multiplication des pains. Je relis les premiers versets de notre chapitre 8. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» J'aime bien cette scène, je la trouve drôle. Jésus refait à ses disciples le coup de « Regardez ces pauvres gens qui m'écoutent depuis des heures et qui n'ont rien mangé. » On avait déjà vu ça avec une première multiplication des pains au chapitre 6. Et dans ce chapitre, Jésus avait demandé à ses disciples de nourrir la foule. Eux, ils voulaient plutôt profiter de la présence de Jésus pour eux tout seuls. Mais ici, qu'est-ce que Jésus leur demande? Rien du tout. Regardez les versets 2 et 3. J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Il n'y a pas de question. C'est un peu comme quand une femme dit à son mari « Chéri, nous avons des invités ce soir, je crois qu'il va falloir faire un peu de rangement. » Ou bien « Tiens, le lave-vaisselle vient de finir de tourner. » Il n'y a pas de question. Mais la demande c'est « Chéri, débarrasse le lave-vaisselle. » La question explicite, la question implicite, c'est ça. Est-ce que tu pourrais ranger ou m'aider à ranger? Est-ce que tu pourrais vider le lave-vaisselle? Un autre exemple. Monsieur dit à son épouse, « Ma chérie, je n'ai pas de chemise repassée pour aller travailler demain matin. » Et les disciples répondent au verset 4 à une question que Jésus n'a pas posée. Et ils disent, « Combien pourrait-on... Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ? » Regardez bien ce que disent les disciples. Ils disent comment, on pourrait traduire aussi d'où, de quelle source, hein, on va tirer des pains, comme ça, pour nourrir tout le monde. Hein, comment pourrait-on les rassasier de pain dans un désert ? On pourrait se dire qu'avec l'expérience de la première multiplication des pains, au chapitre 6, l'un des disciples au moins aurait pu penser que Jésus allait refaire un miracle. Mais non. Ils se demandent de nouveau comment eux vont pouvoir rassasier, pas seulement nourrir, hein, rassasier la foule. On pourrait même se demander si la question des disciples n'est pas un peu ironique ou polémique à cause du contraste entre ces deux mots. Rassasier les gens dans un endroit désert. Et donc, ça pourrait être une question un peu provocatrice pour Jésus. Ils ont bien compris qu'il y a une demande de la part de Jésus qui n'est pas formulée clairement. Et ils ne s'engagent pas trop. Comment pourrait-on les rassasier ? On, c'est un pronom impersonnel. Ils sentent que ces gens ont besoin de manger, mais ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas satisfaire eux-mêmes ce besoin. Ils se demandent donc comment répondre eux-mêmes à la question que Jésus n'a pas posée, mais sans trop s'engager. C'est cocasse quand même. Mais ce n'est pas fini. Je trouve la suite encore plus drôle. C'est que Jésus réquisitionne leur pique-nique. Vous avez vu ça ? La seule question que Jésus pose, c'est « Combien de pain avez-vous ?» Verset 5. Et c'est 7 pains. Les disciples répondent 7. C'est le casse-croûte des disciples. Et Jésus le récupère pour le distribuer à la foule. C'est énorme. Les gars, ils se demandent d'où va venir la nourriture pour ces 4000 personnes. Et Jésus l'a fait venir, miraculeusement, de leur pique-nique à eux. C'est génial. Et comme dans la première multiplication, les disciples aident à la distribution. Mais c'est Jésus qui accomplit le miracle. Et leur casse-croûte est un moyen par lequel Jésus nourrit cette foule dont il a compassion, nous dit-il au verset 2. Alors, vous avez remarqué, en cours de route, les disciples viennent rajouter même quelques poissons. Je me suis demandé si s'ils ne les avaient pas... Comment dire ? Je me suis dit peut-être qu'ils n'ont pas voulu les donner au départ. Ils ont donné que les pains. Pour pas que Jésus récupère tout leur casse-croûte. C'est une supposition, hein. Mais ils viennent en cours de route rajouter les quelques poissons. Peut-être un peu comme s'ils avaient voulu quand même garder une réserve. Et on voit au verset 8 que finalement les gens sont bien rassasiés. C'est le même terme que les disciples avaient employé au verset 4 pour dire à Jésus, mais comment est-ce qu'on pourrait rassasier les gens dans un endroit désert ? Et là, c'est peut-être un petit commentaire ironique là, de la part de Marc qui répond à l'ironie des disciples de Jésus. Vous voyez, c'est là-dessus que Jésus les interpelle quand ils se rendent compte, après leur départ, qu'ils n'ont pas pris de pain. Hein, donc ça, c'est la scène suivante. Jésus renvoie la foule et ils partent. Et puis là, les disciples s'aperçoivent qu'ils n'ont pas pris de pain. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont plus de pique-nique, parce que Jésus leur a piqué, pour l'utiliser pour la foule, mais en plus, ils n'ont même pas pris de reste, alors qu'il y avait de quoi faire un doggy bag, hein, 7 paniers pleins. Et c'est ça, me semble-t-il, dans ce passage, leur problème. Et c'est pour ça qu'ils voient flou, en ce qui concerne Jésus. C'est parce qu'ils ont le nez collé, non pas sur leur écran, mais sur leur casse-croûte, et sur leurs actions à eux. Ah mince, on n'a pas pris de pain. Et je crois que c'est pour ça que Jésus leur dit, mais vous êtes bornés les gars. Verset 17, alors il ne le dit pas comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Cela veut dire que pour apprendre à voir clairement dans la vie chrétienne, il nous faut apprendre à regarder à ce qui vient de Jésus plutôt qu'à regarder à nous-mêmes. À ce que Jésus fait à travers la fragilité de notre vie chrétienne. Par exemple, l'attente d'une réponse pour une place à l'université. On est dans une situation fragile, là. Plutôt qu'à essayer de préserver notre propre casse-croûte. Notre casse-croûte, cela peut être notre gagne-pain, notre métier, notre salaire, notre assurance, notre maison. Comment, en tant que chrétien, pouvons-nous mettre tous ces aspects de notre vie chrétienne matérielle au service de Christ pour qu'il le multiplie avec compassion? Jésus veut nous apprendre, dans ce texte, à partir de son exemple, à être rempli de compassion pour les autres, nous aussi. Et pour cela, il doit parfois réquisitionner les biens matériels dans lesquels nous plaçons notre confiance afin de les utiliser pour son œuvre et pour sa gloire. Et non pour notre gloire à nous. Et ce que les disciples ont fini par comprendre, les pharisiens, eux, ne l'ont jamais compris. Et c'est pour cela que Jésus, en jouant sur l'image du pain, dénonce leur levain. Le levain, c'est ce qui fait lever la pâte à pain. C'est-à-dire leur enseignement et donc leur mentalité. Et c'est ce que nous allons voir dans le troisième et dernier point. Après ce qui voit clair, ce qui voit flou, maintenant ce qui ne voit rien. Dans notre texte, ceux qui ne voient rien sont représentés par les pharisiens et Hérode, ou les pharisiens du parti d'Hérode, comme nous les avons déjà rencontrés dans les chapitres précédents. Les disciples se demandaient d'où ils pourraient trouver de quoi rassasier les gens. Et regardez, les pharisiens réclament un miracle, un signe venant du ciel. Or, il est là, devant eux, le signe venu du ciel, Jésus, le Messie. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. Et c'est en cela qu'ils sont aveugles, non pas physiquement, comme l'aveugle de Bethsaïda, mais intérieurement, spirituellement. Ils ont devant eux Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, Marc 1, verset 1, mais ils refusent de le reconnaître comme leur Messie. Pourtant, ils ont vu ou entendu parler de tous les miracles, justement, que Jésus a fait, et qui attestent qu'il est vraiment le Messie. Mais Jésus ne leur suffit pas. Ils veulent un miracle divin en plus de Jésus. Marc nous dit au verset 11 que c'est pour le mettre à l'épreuve que les pharisiens réclament ce miracle à Jésus. Comment réagit Jésus ? Il refuse d'accéder à leur demande et il s'en va. Pourquoi cette génération réclame-t-elle un miracle, dit-il. Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. Le mot génération, là, la génération qui réclame un miracle, est peut-être une référence à une formule de Moïse, qu'on trouve dans Deutéronome chapitre 32 verset 5 et qui parle d'une génération rebelle. Et il qualifie de génération rebelle la génération d'hommes et de femmes qui sont sortis d'Égypte, qui sont sortis de l'esclavage en Égypte pour aller vers la terre promise. Cette génération qui a vu les plaies que Dieu a infligées à l'Égypte, qui a vu le miraclede la traversée de la fameuse mer Rouge. Cette génération qui, dans le désert, réclamait de la viande, de l'eau, qui voulait forcer Dieu à manifester sa puissance divine. C'est cette génération-là que Moïse qualifiait de génération rebelle. Et c'est probablement ce que fait Jésus ici aussi, sans utiliser le mot « rebelle ». Le verset 12 dit littéralement « si un signe est donné à cette génération ». C'est probablement une formule comme les formules d'imprécation ou de serment. Vous savez, ces formules que l'on trouve surtout dans l'Ancien Testament pour jurer quelque chose. On disait « que Dieu me fasse ceci ou cela si ». Par exemple, David, lorsqu'il est en fuite, il dit, après que Nabal ait refusé de l'approvisionner, que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute cela si je laisse subsister jusqu'au matin un seul homme de chez Nabal. On trouve ça dans 1 Samuel 25, verset 22. Et on a peut-être dans la bouche de Jésus une formule raccourcie de cette formule de serment. Si un signe est donné à cette génération, et peut-être un raccourci de « que Dieu me punisse si un signe est donné à cette génération ». Vous voyez ? Autrement dit, que dit Jésus ? Il dit « il est absolument hors de question que cette génération reçoive un signe, un miracle ». Pourtant, Jésus en a fait des miracles, hein, mais un miracle sur commande. C'est un non catégorique. Et juste après avoir dit cela, Jésus s'en va dans la direction opposée. Il traverse le lac vers l'autre rive, donc il est parti dans la direction opposée. Jésus joint donc le geste à la parole. Il refuse de faire un miracle sur commande, et pour confirmer ce refus, il tourne le dos à ces gens qui ont une mentalité, on va dire, de consommateurs religieux et qui veulent le piéger. Et il part à l'opposé. Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Il est le Messie, le Sauveur. Ceux qui ne le voient pas sont des aveugles, et Jésus leur tourne le dos. Pourquoi cette génération réclame-t-elle un miracle ? Se pourrait-il que cette question soit toujours d'actualité pour notre génération ? Se pourrait-il que parfois nous soyons nous aussi tentés de tester Dieu et sa puissance miraculeuse ? Seigneur, donne-moi un signe du ciel pour que je connaisse mon avenir professionnel. Seigneur, je veux un signe concernant la fin des temps. Seigneur, manifeste ta présence de manière miraculeuse pendant notre culte, pendant que nous chantons, pendant que nous prions. Certains réclament des visions de Jésus. Et ceux qui ne voient pas de tels miracles ou de telles visions peuvent penser qu'ils sont de mauvais chrétiens. Attention, chers amis. Dieu n'est pas dupe de certaines de nos motivations. On a parlé de l'état de notre cœur ce matin. Certaines de nos motivations qui peuvent prendre l'apparence d'un test de notre foi, où nous voulons peut-être vérifier que nous avons bien la foi et que Dieu ne nous a pas oubliés, et alors nous testons Dieu d'une certaine manière. Mais où est la limite entre tester Dieu et essayer de le manipuler ? C'est pas évident. Il peut être séduisant dans notre génération, où nous avons pris l'habitude d'obtenir satisfaction en cliquant sur un écran, de penser que Dieu agit comme cela, sur commande. Alors nous, dans le rôle de celui ou celle qui commande, évidemment. Et il est probablement plus laborieux de persévérer dans la prière, par exemple, ou de lire la parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, jour après jour, semaine après semaine. Ça, c'est sans doute plus laborieux que de cliquer sur le bouton « miracle » ou « signe ». Mais regardez bien, encore une fois, comment Jésus réagit face à ces réclamations de miracle. Il tourne le dos. Il n'en a que faire. Jésus n'est pas un distributeur de miracles. Si c'est cela que nous attendons de la vie chrétienne, que Jésus n'intervienne qu'à coup de miracle dans notre vie, nous allons être déçus. Jésus peut-il faire un miracle dans notre vie ? Bien sûr, mais jamais sur commande. Et la plupart du temps, Jésus n'intervient pas de manière miraculeuse dans notre vie. Soyons donc vigilants que cette question que pose Jésus ne nous condamne avec les pharisiens. Et si c'est le cas, changeons de mentalité, car être chrétien, ce n'est pas courir après les miracles dans notre vie. Au contraire, il nous faut grandir dans la maturité et sortir d'une foi magique. Vous qui êtes là ce matin, ce sera ma conclusion, et qui n'êtes pas chrétien, le Christ vous appelle à sortir de votre aveuglement. Vous vous êtes peut-être convaincu que vous voyez clair, mais en fait, vous êtes aveugle. Alors, vous n'avez peut-être pas de problème de vue particulier sur un plan physique, même si vous regardez des écrans toute la journée. Ou si vous avez un problème de vue, eh bien que ça vous donne l'occasion de réfléchir. C'est peut-être le signe d'un aveuglement plus profond dans votre cœur. Venez à Jésus le Christ pour qu'il vous rende la vue ce matin. Et pour vous qui êtes chrétien, pour vous qui avez reconnu en Jésus le Messie parce qu'il s'est révélé à vous et qu'il vous a fait voir qui il est vraiment, tenez ferme dans cette foi. Ne rentrez pas au village, comme Jésus dit à cet aveugle. C'est-à-dire, ne retournez pas à votre ancienne mentalité ou à celle de ceux qui vous entourent, mais continuez à apprendre à connaître Christ selon l'Écriture, toute l'Écriture. Vous voyez peut-être encore flou, comme les disciples. Eh bien, ne vous en contentez pas, car vous êtes appelés à voir clairement qui est Jésus-Christ pour vous, pour l'Église et pour ce monde. Ne gardez pas en permanence les yeux fixés, pas seulement sur l'écran, mais sur vous-même. Sinon, vous allez avoir du mal à bien voir de loin. Ne cherchez pas à garder les yeux fixés sur votre casse-croûte, sinon vous aurez du mal à voir l'intervention de Dieu dans votre vie et dans celle des autres. Laissez Christ utiliser votre pique-nique de cette semaine, c'est-à-dire votre métier, votre vie de couple, votre argent, vos capacités et vos limites, afin que tous ces aspects de votre vie chrétienne, Dieu les multiplie pour le bénéfice des autres autour de vous. Gardez une bonne vue à distance, car les aveugles que vous allez rencontrer cette semaine, vos collègues, vos amis, etc., ont besoin de votre témoignage chrétien, à vous, à qui le Christ a rendu la vue. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce parcours que nous avons pu accomplir dans cette première grande partie de l'Évangile selon Marc. Et nous te demandons de nous donner la vue ce matin, ou une meilleure vue, si tu nous as déjà guéri, si tu as déjà guéri notre cœur, si nous t'avons déjà donné notre cœur comme nous l'avons rappelé ce matin dans la première partie du culte. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions à la fois contempler ta sainteté et mettre en pratique ta parole dans notre vie cette semaine. C'est dans le nom de Jésus, celui qui ouvre les yeux des aveugles, que nous te demandons cela. Amen. Amen.